105 FM. Le manche-disque. L'émission qui tourne. À 33 tours minute.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes.
Bonsoir.
Bienvenue dans le manche-disque sur Radio G, votre rendez-vous du lundi soir, tard dans la nuit à 23h. C'est la première de 2021, alors
oui,
bonne année.
Bonne année à tous les auditeurs et les auditrices.
Enfin, mais bonne année. On n'y croit pas trop, mais meilleur possible.
Si, ouais.
Meilleur possible, c'est ça qu'on se dit. Ça, on ne nous l'enlèvera pas, d'essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Donc voilà, on souhaite bien sûr à toutes les lieux de culture de pouvoir redémarrer. On a un invité en fin d'émission d'ailleurs qui nous en peut-être touchera deux mots, qui est premier concerné par le sujet, parce que voilà, on va avoir le plaisir d'accueillir aussi un invité qui va nous parler de ce qu'il fait, puis aussi de sa passion autour des vinyles. Donc c'est un plaisir de démarrer l'année comme ça. Et puis on va démarrer donc avec un petit peu d'exotisme, Julien.
Exactement.
Je vais lancer le disque et puis tu nous en parleras.
Oui, tout à
l'heure.
Ça marche.
Sometimes.
endormi, mais c'est vrai que ça, c'est apaisant quand même.
Ah oui, oh combien apaisant. Oui, on commence tranquillement, là, il est 23h. Ne vous endormez pas, mais relâchez-vous.
On va essayer de vous réveiller. Voilà, c'est pour vous détendre dans votre fauteuil. Ou j'espère que vous n'êtes pas sur la route.
Oui, ça c'est un peu plus embêtant, amis routiers.
Donc bon, c'était un morceau du troisième album de Meitei. Alors Meitei, qui c'est? C'est Daisuke Fujita. C'est un artiste japonais qui a commencé en 2018 même avec l'album Kwaidan, puis l'année suivante avec l'album Komachi, et là on est sur le dernier d'une trilogie qui est consacrée aux sentiments perdus du vieux Japon. Avec une interrogation sur l'esthétisme et l'art à la japonaise du début des années, enfin de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Le sous-titre de cet album, c'est Satire of Old Japanese Aesthetics. Et c'est un très très bel album, donc plein de samples avec cette dimension un petit peu ethno qu'on peut retrouver, c'est Free the Robots dont on vous avait passé un morceau.
Oui, de l'album Datu.
Voilà, ou également SPK avec l'album Zami Alemani avec les chants océaniens. Ou même ce qu'avait pu faire Moby avec Play et les vieux morceaux de blues. Alors cet album est sorti cette année chez le label singapourien japonais intitulé Kitchen Label. Et si vous tombez dessus, n'hésitez pas, prenez-le, parce que ces trois disques-là cotent énormément. En fait, moi j'ai eu la chance de tomber sur une précommande, donc voilà, je l'ai précommandé à un prix somme toute très raisonnable. Et par contre, voilà, ça a très vite grimpé et les précédents sont hors de prix.
Donc, tous les fans de la culture japonaise se jettent dessus, surtout parce que c'est très prégnant dans le son. Quoi.
C'est un bel objet. Dedans, il y a les paroles reliées à la japonaise, là, enfin, un format japonais traduite également en anglais. Et puis voilà, belle couleur, un hobby évidemment à la japonaise. Oui. Donc plutôt sympa, quoi.
Ok, écoute, moi je te propose de rester dans l'exotisme, si j'ose dire, même si on va revenir sur notre continent européen, avec un groupe bulgare, une fois de plus, puisque j'avais déjà passé du jazz, un projet de jazz folk bulgare qui s'appelle du Plovdiv Folk Jazz Band, mais cette fois-ci c'est un autre groupe, alors un petit peu de la même époque quand même, puisque ce disque il a été réalisé en 1978, un groupe qui s'appelle Beli Zeleni et Tcherveni, qui veut dire les blancs, les verts et les rouges, rapport au drapeau bulgare. Mmh. Donc c'était des types qui ont choisi leur nom de façon assez nationaliste, et puis qui ont fait un projet. C'est le leader de ça, c'est Veselin Nikolov, qui a fait un projet jazz fusion, je dirais assez surprenant, sur lequel moi je me suis arrêté. Je suis tombé dessus un petit peu par hasard, puisque j'aime bien fouiller un petit peu dans la culture bulgare, parce que c'est un pays qui m'est cher. Mais je me doutais pas que j'allais tomber sur quelque chose de cette nature là, en tout cas en 78 en Bulgarie, sur le label national Balkanton, hein, qui est le label, je pense le seul label même à ma connaissance bulgare qui a pu donc signer des choses qui se sont un petit peu diffusées dans le pays. Donc je vous propose d'écouter un morceau qui est le premier de l'album, puisque l'album était peut-être destiné à l'exportation, puisque systématiquement tout ce qui est écrit en bulgare est traduit en anglais. C'est-à-dire que juste en dessous de ce que je vous ai dit en bulgare, c'est White, Green and Reds, le groupe dont je vous parle. Et puis donc le morceau que je veux vous faire écouter s'appelle Doves, donc les cygnes. We'll be right back. Et on me souffle dans l'oreillette que mon bulgare est mieux que mon anglais, puisque Doves voudrait dire en fait colombe, oui. Et non pas cygne. C'est beaucoup plus poétique, beaucoup plus symbole de
ouais,
paix.
C'est la paix et tout ça.
Voilà, donc bah oui, c'est comme ça.
C'est Swan cygne, je crois, hein, si je dis pas de bêtises.
Mais oui, voilà, ouais. Mais oui, Black Swan.
Black Swan.
Ben,
oui.
Voilà.
Natalie
voilà,
Portman.
Voilà. Bienvenue dans le Manche Disque, l'émission linguistique de référence musique et langue étrangère. Voilà, donc c'est, j'espère que ça vous a plu, hein, ce projet des fins 70 bulgares, Red, non, attends, dans quel ordre ?
C'est
Red, non, White, Green and Red, voilà.
Alors, voilà. C'est pas le bon ordre, ça, enfin si c'est le bon ordre bien entendu, mais ça aurait presque pu être le drapeau italien en fait.
Oui, finalement. Oui, mais ouais. À la verticale.
Ouais.
Et donc l'album s'appelle Don Juan, voilà, Don Juan. Voilà.
Ok.
Donc il y a un petit peu d'Espagne aussi là-dedans. Voilà,
eh ben, côté charmeur peut-être. Ben, moi, je vous propose de repartir au Japon.
Allez, hein, on y retourne avec
alors,
plaisir.
On est, j'en parle après alors. J'en parle après ou je le
non,
présente
vas-y,
maintenant
vas-y, ah, okay, présente, okay, okay. Vas-y, vas-y.
Eh ben, je vais vous présenter tout ça. Alors, il s'agit du premier album d'un groupe, d'une formation qu'on peut appeler, on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle Jaguar No Me. En fait, je parle d'une formation et j'ai un petit doute parce que c'est surtout le projet d'un seul homme, Taishi Nagasaka, qui pour les plus forcenés de la Fatui Family d'entre vous auront connu le nom d'un bassiste, notamment sur l'album Songs for Our Mothers de 2016.
Deuxième album.
Donc voilà. Il a composé un peu pour eux et puis il a quitté le groupe, il a été viré, j'en sais rien, en tout cas voilà, il a quitté la Fat White et puis il avait des projets et il avait tout ce boulot qu'il avait fait qu'il voulait continuer à utiliser et donc bah, à Berlin, enfin en Allemagne en tout cas, où il s'est installé, il a reconstruit un groupe autour de lui et il a présenté ce premier album qui est chanté en japonais. Et je vous propose d'écouter le morceau d'ouverture qui fait très salaryman dépressif qui sort d'un karaoké, je trouve. Enfin voilà, c'est un peu cliché, mais on est vraiment, je trouve, dans une bande son d'un. Enfin, on pourrait faire un clip assez facile. Le morceau s'appelle Kaku no Kai, qui va dire l'amour imaginaire.
Tout un programme.
Yeah.
Jaguar nommé. Et puis j'en profite un petit peu quand même aussi pour citer l'album de Meitei tout à l'heure. C'était l'album Kofu et le titre c'était Shonen. J'avais oublié, j'avais parlé des albums précédents, mais même pas de celui que je passais.
Donc si vous voulez vous le procurer, voilà, vous avez les références. Donc c'était encore une fois un voyage en Asie et au Japon. Tout à l'heure, moi je vous ramène tout le temps vers l'Europe, hein, mais jamais là où on s'y attend, puisque tout à l'heure on est parti en Bulgarie, et là on va aller du côté de l'Espagne. Du côté de l'Espagne avec un groupe qui s'appelle Pan y Regaliz, un groupe espagnol de rock, psyché, prog, qui s'est formé en 69 sous le nom de Agua de Regaliz, et qui a signé ensuite chez un label espagnol qui s'appelle Dimension. Au début des années 70, et qui a dû changer son nom pour des questions de droit, je crois. Il devait y avoir autre chose sur Terre, une marque avec qui c'est rentré en conflit. Donc ils ont changé leur nom, ils sont appelés Pan y Regaliz. Ils ont sorti en 71 un album éponyme qui les a promis un grand avenir. Ils étaient un petit peu les symboles de la nouvelle scène rock d'Espagne. Et puis, ensuite, malheureusement, ils ont sorti aussi un single après leur album, plus vers 72-73, qui peut-être annonçait d'autres albums à venir. Mais malheureusement, la séparation du groupe en 73 a eu raison de cette carrière prometteuse. Et donc, on ne garde d'eux qu'un album éponyme, je l'ai dit tout à l'heure. Album original que vous trouverez sur Discogs à un prix moyen de 325 €. Autant dire que il faut vraiment 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 les aimer. Moi pour ma part, je me suis contenté d'une réédition des années 2000 chez Wawa Records, que j'ai acquis pour 10 fois moins, et qui comporte aussi quelque chose d'intéressant, puisque Wawa Records, ils se sont dit il y a encore de la place sur cet album, et donc on va y intégrer le titre dont je vous ai parlé aussi, du single qui ne figure pas sur l'album original, qui s'appelle Magic Colors, et qui et dont le petit single 45 tours s'échange aussi à un prix moyen de 150 €. Donc c'est un peu moins cher que l'album, mais ça reste quand même une somme pour deux titres, 10 minutes en tout. Donc voilà, je vous propose le grand privilège donc d'écouter ce Magic Colors rajouté par Wawa Records sur cet album de Pan y Regaliz qui s'appelle Pan y Regaliz. Voilà, mais on est en 1900, donc 72-73, sur un album qui, dans sa forme originale, est paru en 71.
Thank you.
c'est Fuzzy Grass qui a suivi ce groupe espagnol. Fuzzy Grass, lui, est un groupe toulousain, un groupe récent, puisqu'il a sorti cet album en 2018, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est un groupe qui tourne depuis 2015, qui a déjà sorti un disque constitué de morceaux capturés en live. Et là, c'est leur premier album pour lequel ils avaient fait une levée de fonds, qui heureusement a été un succès, parce que moi je découvre le groupe un petit peu après la bataille. Mais Fuzzy Grass, donc, c'est un groupe de Toulouse. Toulouse, cette belle ville qui nous avait déjà donné Slift, qui nous avait déjà donné Carcara, qui nous avait déjà donné The Psychotic Monks. Il faut compter aussi donc avec le rock psyché et stoner de Fuzzy Grass, constitué de Audric Faucheux à la voix et aux machines étranges, comme c'est indiqué dans le label, qui me semble être un thérémine, Laura Louise à la guitare qui fait des solos, des solis de fou, Thomas Houbeck à la basse et Clément Santiago Gaudry à la batterie et au MS-20. Donc voilà, petite production locale. Enfin locale française, qu'on peut trouver notamment sur leur Bandcamp. Hein, si vous cherchez l'album, n'allez pas alimenter le vautour. Il y en a qu'un qui le vend sur Discogs à 100 €, ce qui est quand même tout à fait absurde. Il est encore disponible sur leur Bandcamp au prix normal, à une vingtaine et quelques d'euros plus le port. Et en plus, en discutant un petit peu avec les artistes, il y a moyen d'avoir une petite dédicace qui va bien. Donc je les remercie aussi pour le petit mot sur la feuille des paroles, sur le feuillet.
Ah oui, c'est
paroles.
Quand même plus sympa. Il y a des choses bizarres sur Discogs des fois comme ça, effectivement. C'est dispo quelque part pas cher, et puis Discogs, il y en a qui le vendent à des prix.
En faisant croire que c'est.
Ça
très,
a peut-être
très
marché
rare.
Une ou deux fois, alors peut-être que voilà. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Hein. Voilà, bah écoutez, ça va être le moment peut-être d'écouter le premier morceau américain.
Oui, quand même.
De la soirée, il faut le faire quand même. Hein, ouais. Tenir toute cette émission musicale sans un morceau outre-Atlantique. Enfin, si, quoi que le Japon, ça peut être outre-Atlantique si on veut, si on part dans ce sens-là. Je vais revenir sur du jazz fusion avec Billy Cobham, le célèbre batteur que l'on connaît notamment, déjà pour lui tout seul. Hein, on a déjà passé un morceau de son album le plus célèbre, tu sais, avec cette couverture, cet orang-outan, là.
Oui, tout à fait.
Énorme Funky Tide of Things. Mais il s'est aussi illustré aux côtés du Mahavishnu Orchestra que j'aime bien aussi moi dans tout l'aspect jazz rock. C'est un symbole de la fusion jazz rock. Et bien je vous propose un de ses albums un petit peu moins connu, peut-être un petit peu plus tardif. Je vais attraper tout de suite.
Et j'en profite.
La couverture, oui. Tu
juste
dire
pour dire que le morceau, comme c'est une habitude aujourd'hui pour cette émission, pour cette 30e, c'était The Upside Down sur l'album qui s'appelle 1971, en ce qui concerne Fuzzy Grass. Excusez-moi.
D'accord, bah c'est pas grave. Hein. Je remarque juste que tu t'en fous complètement de Billy Cobham, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas.
J'écoutais pas.
J'espère que nos auditeurs seront plus attentifs. Et donc, je blague, mais je disais donc que cet album s'appelle Depth of Stout. Voilà, parce que c'est pas facile à dire. Il y a beaucoup de TH, et le TH en anglais, c'est un petit peu délicat, mais voilà, vous l'aurez compris, il date de 1978, et voilà, sans faire exprès, même année que le morceau bulgare que j'ai mis tout à l'heure. Donc on est sur un autre projet jazz fusion à l'américaine, un morceau que je vous ai choisi qui s'appelle Appaloosa.
Lines, boy, that girl was mine. so bright for the days to come.
L'heure de prendre un petit peu d'acide.
Marron de préférence.
Marron de préférence, et bien entendu, on parle des disques, on ne vous encourage pas à consommer de la drogue. Je vous parle de The Fifth Trip de Brown Acid. On est au numéro 5 de cette fabuleuse compilation que j'ai entrepris de vous faire découvrir durant toute cette saison du Manche Disque. Mm-hmm. Donc là, on est sur le cinquième volume de ce Heavy Rock from the Underground Calm Down. Et je vais vous proposer d'écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Lens, qui vient de Fremont, Ohio, en 1977. Et le morceau s'appelle Fireball. We'll be right back. bien. C'était Lens avec le titre Fireball. Lens qui a quelques membres d'un autre groupe, Inside Experience, qui est dans le Third Trip, dont j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler, parce que je le fais dans le désordre.
Tu suis pas les 1, 2, 3, 4.
Non, 5, j'avais commencé en ordre décroissant, puis en fait, je trouve ça un peu contraignant, donc je passe le meilleur, en essayant de varier à chaque fois, en tout cas, un morceau par compilation, et puis après, j'irai retaper dedans si besoin.
On n'aime pas trop les contraintes au manche-disque, donc on les évite. On a déjà la contrainte de tenir une heure, donc c'est pour ça que je voudrais pas trop tarder avant d'accueillir notre invité de ce soir dont je vous parlais en intro, Cyril Bilbo. Cyril Bilbo, bonjour.
Bonjour. Voilà. Meilleurs vœux.
Ben, meilleurs vœux.
De même.
Aussi, de même.
Merci.
On a le plaisir en plus par rapport aux fois précédentes d'avoir donc cette interview, de la réaliser dans les conditions du direct. Pour rien cacher aux auditeurs, couvre-feu oblige, nous ne sommes pas en direct, mais nous enregistrons dans les conditions du direct, presque dans les conditions du direct. Et donc nous avons Cyril Bilbo donc avec nous dans le studio. Donc c'est une interview qui est d'autant plus agréable que celle que l'on vous diffuse en différé total d'habitude. Puisque nous sommes en plus tous les deux présents, Julien et moi, pour la réaliser. Donc Cyril Bilbo, donc bonjour, musicien donc aux multiples projets dont j'ai pu moi avoir un aperçu avant cette interview où je me suis délecté d'un projet qui s'appelle Zone Libre que tu fais en tant que batteur avec un collègue à toi guitariste dont tu nous parleras. Et puis sur l'album que j'ai, enfin sur le projet en tout cas que j'ai écouté, il y avait aussi le rappeur donc Marc Namour voilà. Qui est parallèlement aussi la voix du projet La Canaille,
tout à fait,
hip-hop français,
voilà. Et donc le guitariste Serge Tessoguet, voilà, qui est aussi dans multiples projets et qui est surtout reconnu pour avoir officié au sein de Noir Désir.
Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc des talents réunis sur ce projet.
Par moi.
Voilà. Oh, et en plus l'humilité, cerise sur le gâteau. Donc voilà, donc c'était un projet à noter quand même qui a aussi un message puisque c'est un texte d'Aimé Césaire originalement.
Oui, c'est ça.
Alors sur un habillage musical.
C'est une lecture musicale autour d'extraits de le retour d'un cahier au pays natal.
Ouais.
Très bel ouvrage que je conseille à tout le monde.
Oui. Et puis il y avait d'autres projets aussi, peut-être dont tu voudrais parler.
Oui, le dernier en date, c'est un projet qui s'appelle Versari. C'est notre troisième album. Il s'appelle Sous la peau. Il est sorti sur un label qui s'appelle T-Record en avril de cette année 2020, malheureusement. Ouais. Donc ça a été un petit peu compliqué comme vous imaginez. Ouais, et puis voilà, on essaye tant bien que mal de continuer à le défendre, surtout via des vidéoclips. Donc si vous en avez l'occasion, vous tapez Versailles sous la peau, il y en a déjà deux qui sont visionnables et un troisième qui est en préparation.
On mettra les liens sur notre page Facebook.
Et donc, Cyril, tu es à la fois donc musicien, mais aussi amateur de disques vinyles.
Tout à fait.
Moi, j'ai eu le privilège de visiter ta collection, voilà, d'écouter certains disques à travers tes enceintes, collection rejoint le manche disque dans son éclectisme. Voilà, il y a beaucoup d'horizons différents qui sont présents. Voilà, il y a aussi un peu de CD qui viennent encore plus élargir les styles et les approches musicales. Qu'est-ce que tu dirais toi aujourd'hui du fait d'écouter du vinyle en 2021? Qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que tu vas y trouver? Pourquoi est-ce que toi tu as conservé ce support, on va dire vintage?
Je sais pas. Je crois que c'est le support avec lequel j'ai commencé à écouter de la musique. Il doit y avoir un phénomène lié que je suis nostalgique peut-être, puis aussi auditif, puisque moi, malgré le fait que effectivement le numérique fait que la qualité de son peut être considérée comme étant meilleure. Après, ça dépend des goûts de chacun. Moi, j'ai toujours plus de plaisir à écouter ça sur vinyle. Je trouve qu'il y a une chaleur que je retrouve pas dans le CD. Ça, c'est peut-être subjectif, mais en tout cas, moi, je il m'arrive d'avoir des albums et un CD et un vinyle et de préférer la version vinyle largement.
Ça nous renvoie aussi à une époque peut-être que
bien sûr,
laquelle ouais. on entretient des liens et qu'on aime bien. Et en parlant d'époque révolue, est-ce que tu te souviens toi de ton premier souvenir, alors parfois c'est pas exactement le premier, mais en tout cas un souvenir marquant de ton enfance qui t'a autour du disque vinyle, que ce soit à travers des sons que tu as entendus ou à travers des expériences plus matérielles?
Ben oui, et d'ailleurs ça se passe bien à l'émission puisque c'était avec un manche-disque.
En plus un manche-disque.
Qui appartenait à une tante et c'est un souvenir qui est assez lointain parce que je devais avoir 4 ans. Quelque chose comme ça, et j'avais un souvenir de... C'était lors d'un été où on était en camping, on avait ce manche-disque à disposition, donc ça marchait à pile, donc ça marchait partout. Et pour moi, c'était fabuleux de prendre le 45 tours, de le voir avalé par le manche-disque et d'entendre de la musique derrière. Il y avait un effet que je trouvais magique dans ma mémoire. Et je pense que ça a joué aussi dans le fait de me découvrir une passion, une curiosité autour de la musique et du son, et puis après de passer à l'acte en tant que musicien.
Ouais. Ah, carrément.
Ah oui, je pense. Ça, ouais, parce que moi, je me considère comme un auditeur qui est passé à l'acte.
D'accord.
Avant d'être un musicien.
D'accord.
Mais moi, pour la petite histoire, j'aime bien écouter les disques sur les appareils qui sont en cohérence avec la période de sortie.
D'accord. Ah ouais.
Parce que je trouve que le mastering, il est du coup adapté. Parce que
Le
procédé de mastering est fait pour que le son soit optimal par rapport à l'écoute.
Oui.
Et l'écoute, c'est via les appareils qui étaient disponibles à cet instant précis, quoi.
Oui, donc, effectivement, ça prend en compte la technologie actuelle.
Complètement. Donc, moi, j'ai des 45 tours qui sonnent mieux sur un TEPAZ des années 60 que sur une chaîne audiophile, par exemple.
Ouais. Ah ouais. Ah ouais.
Et ça, c'est flagrant.
Est-ce que tu te souviens le premier disque que tu as acheté avec ton argent
Le premier disque que j'ai acheté avec mon argent, c'est la bande-son de SOS Phantom, le 45 tours de Ray Parker Jr.
C'est ça.
Hein?
Who you gonna call?
C'est ça, exactement.
Je suis pas hyper bon chanteur.
Et le premier 33 tours que j'ai acheté, c'est One Step Beyond de Madness. C'est justement la discussion qu'on avait hors antenne sur la Madeleine de Proust, de se dire que la musique, c'est quand même un petit peu un instantané d'un moment.
C'est vrai.
Et que c'est souvent lié à des souvenirs, des images, des émotions, et que il y a cette dimension-là, en tout cas de la musique, mais elle est très importante aussi, quoi.
Ouais, effectivement. Et en parlant donc de toutes ces Madeleines de Proust que l'on met côte à côte sur des étagères et qui prennent beaucoup de place en matière de disques vinyles et encore plus de 33 tours, est-ce que toi tu te considères comme un collectionneur?
Non.
Est-ce que c'est un terme qui te définit?
Ah non, pas du tout. Moi j'achète des disques pour les écouter.
D'accord. Et dans collectionneur, tu placerais plus quel concept?
J'étais dans la logique de me dire je veux acheter tel pressage de telle année ou tel pressage original ou me dire que groupe, le groupe bulgare que tu nous as fait écouter en début d'émission, je veux l'édition, le premier pressage de ce groupe-là et pas la réédition comme celle du groupe espagnol par exemple.
Ouais, ouais.
Bon, pour moi, le collectionneur, c'est celui qui va l'acheter sur Discogs à 350 euros. Ouais.
Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est le côté, le matériel qui l'emporte sur la musique.
Ouais, après, moi, j'ai des amis que je connais qui sont passionnés par un groupe et achètent tous les albums, tous les pressages de ce groupe pour tout avoir, les albums promo, les 45 tours, les cassettes, les CD, tous les supports sur lesquels les cassettes 8 pistes, 4 pistes ou 8 pistes, je ne me rappelle plus. Les cartouches.
Ouais.
Ils vont tout. Mais après, c'est comme les fans de cinéma qui vont acheter tout le merchandising autour du film parce qu'ils sont fans du film. Pour moi, c'est la même logique. Quoi. C'est
on
plus
a bien
lié
compris
au support. Quoi.
Que ton approche, toi, elle était avant tout musicale.
Oui,
c'est-à-dire que tu vas aller plus au plus simple. sans parler de différences qualitatives, mais enfin, voilà, au plus qualitatif, le plus simple, pour pouvoir profiter de la musique. C'est ça ton souci premier.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis moi, j'adore chiner, donc je fais énormément les vignes-greniers.
Bon, mais merci beaucoup.
Avec plaisir.
Pour cette interview, Cyril. On était vraiment ravis de t'accueillir. Et comme c'est la tradition, on va te laisser les platines du studio pour conclure cette émission avec un morceau de ton choix. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, je me suis dit, en cette période morose, on va terminer sur un morceau un petit peu léger, groovy et jazzy d'un organiste qui s'appelle Jimmy McGriff et le titre c'est The Worm.
Ok, bon, on s'écoute ça tout de suite. Encore merci Cyril.
Avec plaisir.
Et on dit à dans 15 jours à tous nos auditeurs sur Radio G 101.5, le Manche Disque.